Elpénor, chapitre 4, nouvelle mort d'Elpénor. Minerve apparut à Alcinous. « Alcinous, dit-elle, une tempête va rejeter Ulysse sur ton île. Elle le déposera près du lavoir de ta fille. Je voudrais que Nausicaa fût présente et le reçût, mais que personne ne sache qui est ce naufragé. Donne-lui par contre les occasions de se révéler lui-même et de présenter soudain à tes sujets, dans la minute du départ, Ulysse. Je te dis là un secret, les dieux eux-mêmes n'en doivent rien savoir. » Ainsi parla Minerve, dans son langage froid, sur lequel ne prend ni l'épithète ni la métaphore, sur lequel meurt l'exclamation « hoquet de l'affection ». Le plus curieux, c'est qu'elle croyait exprimer sa pensée, qui était tendre, fleurie, qui était entrecoupée de « ah » de « oh », qui était « oh, je voudrais que Nausicaa fût présente pour le recevoir de ce marchepied terrible. Oh, j'adore voir le premier regard d'Ulysse, après une épreuve mortelle, se poser sur un beau corps. Je l'aime en tout bien, tout honneur. J'adore voir le bras d'Ulysse, après qu'il a battu toute une journée l'onde, s'accrocher à de la chair. Je l'aime comme un frère. Oh, j'adore l'entendre murmurer aux jeunes filles, au sortir de la mort, ce premier salut à double entente, car il l'avait préparé pour une ombre, qui leur donne l'impression, nue, d'être recouverte d'un maillot et vêtue d'être nue. C'est mon enfant, etc. Mais les dieux sont comme les hommes. Ceux qui ont du style sont seuls à se connaître. Alcinous alors convoqua son peuple. « Peuple, écoutez » cria-t-il. « Tout le monde est-il là ?» C'était le seul travers que son peuple reprocha à Alcinous. Il le rassemblait deux ou trois fois par jour. Il voulait qu'à la moindre pensée du souverain correspondît un grand remuement de jambes dans le peuple tout entier. On redoutait dans toute l'île qu'il ne se mît un jour à penser la nuit. En bons marins qu'ils étaient, les Phéaciens arrivaient d'ailleurs placidement sur la place du palais comme pour des exercices de sauvetage, se rangeant qui près du petit café, qui près de la Phéacienne, destinés à être, dans la prochaine émotion, leur barque de sauvetage. Mais les violettes et les narcisses des parterres royaux étaient heureux de ces réunions qui leur apportaient leur seule ombre. Narcisses et violettes se hâtaient de croître et d'embaumer sous ces ombres humaines un parfum de poisson. « Tout le monde est là !» cria le peuple. « Il ne manque que les prisonniers dans leur prison !» Ce n'était pas tout à fait exact. Tous ceux qui s'amusaient ou s'occupaient à leur métier ne venaient pas. Il manquait les boulangers dans leur boulangerie, les philosophes dans leur philosophie, les absents dans leur absence. Mais le trône d'Alcinous était bas, et ainsi ne pouvait voir que les groupes étaient des rondes vides. « Peuple, dit Alcinous, Minerve m'est apparue. Alcinous, mon ami, m'a-t-elle dit, toi dont l'île, seul point fixe de l'univers, dénudé comme un diamant, raye de traits ineffaçables les prunelles des dieux, Ulysse va être rejeté près du lavoir de Carados, non loin de la réserve du pêcheur Attilé. Comment Minerve retient ces noms? C'est le secret des dieux. La mer l'aura brassé trois jours. Il sera couvert d'ordures marines. Que personne ne sache, Alcinous, mon féal, quel est ce naufrage. Donne-lui seulement les occasions de se révéler lui-même et de présenter soudain, à la minute du départ, le grand Ulysse, auquel tu ressembles en beauté, en sagesse et en force, à tes sujets stupéfaits. Les dieux eux-mêmes n'en doivent rien savoir. Mais comment, qu'y a-t-il? Je ne vois pas dans la foule le petit Lyonnos. Le petit Lyonnos, fils d'une courtisane et d'un poète didactique, pêchait présentement le goujon dans une charmante vallée. Il se hâtait, car la canicule approchant, le torrent devait tarir au crépuscule, et c'était son dernier jour de pêche. Les peupliers bruissaient. Les merles bleues volaient de colonne d'aqueduc à colonne d'aqueduc, et les cigales, mortes en plein champ, donnaient en tombant sur la terre un bruit sec qui permettait de les découvrir aussitôt et de détacher leurs cuisseaux pour les hameçons. Lyonnos avait préparé des galets brûlants pour griller sa friture. Parfois, à la vue des collines arrondies en saints inégaux, il enlaçait un vergne des bras qu'il avait de son père et le baisait, ou bien, pris de détresse devant cette eau qui coulait pour la dernière fois, il penchait sur elle le visage qu'il tenait de sa mère et l'alimentait d'une larme. Les gardes le hissèrent de force sur un char. Les beaux goujons tombaient un à un derrière le cortège comme des pleurs dans la poussière ou des virgules de deuil. La canne à pêche accrochée par un fil soutint quelque temps le galop, et quand on eut jeté le petit Lyonnos sur la place, Alcinoüs recommença son discours. « Oh, Alcinoüs !» cria le peuple, quand son prince eut conclu, « comme tu as raison de compter sur nous pour contenir un tel secret. Au bénéfice de qui, d'ailleurs, le trahirions-nous, puisque nous avons bien compris ta sage méthode, tout le monde dans l'île, grâce à toi, le possède. Ce n'est plus une nouvelle, c'est un élément. Quel plus grand secret que l'universel, que l'air qui nous entoure et la mer, quel secret! De plus, puisque l'oubli lui aussi garde puissamment les secrets, nous oublions celui-là. C'est fait! De cette minute, rien n'en subsiste plus dans notre souvenir. Mais, ajouta le peuple, uniquement par politesse d'ailleurs, et par maniérisme grec, et sans penser le moindre monde à avoir raison, ne crains-tu pas que, plongé soudain dans cette ignorance absolue, retiré de son atmosphère où chaque bruit est l'écho de son nom, jeté dans ce néant ulyssien, il y a ici quelque péril pour Ulysse d'oublier lui-même qu'il est Ulysse. Il dit, chanta l'hymne du secret, non pas l'hymne de Phrynoeinos, dont le troisième vers est une gaudriole et attribué à Jupiter lui-même. Ô toi que l'amour secrète, ô secret, etc. Mais l'hymne même d'Achille à Penthésilée, dont le cinquième vers est la clé des mystères orphiques. Loin de vous, plus loin de moi, insensible au moindre émoi, au moindre bruit sans oreille, endormi dès que je veille, etc. Et se dispersa. Un vieillard demeurait. Tout cela est très bien, Alcinoüs, dit-il, mais qui donc est Ulysse? Nous sommes des insulaires, peu curieux des renommées continentales. Nous pouvons, ignorant tout d'Ulysse, commettre bien des impairs. Ne parle pas d'abricot devant un mari trompé, dit l'autre proverbe. Il a raison, qu'on appelle le peuple, cria Alcinoüs. Alors les héros ramenèrent la foule. Alors les cavaliers rattrapèrent le petit Lyonnos qui courait après son ruisseau desséché déjà en amont. Alors, de même qu'au théâtre on les glisse sous les tapis pour figurer l'océan, les enfants, au-dessous de la foule, jouaient et couraient à quatre pattes, provoquant des remous. Les vieillards étaient en première ligne, leur barbe blanche était de l'écume agitée par la brise, et Alcinoüs, roi des vaisseaux, contemplait avec affection cette petite mer composée de marins. Alors il leur dit ce qu'était Ulysse, sans tâcher de l'amoindrir à leurs yeux, car il était impartial, se permettant toutefois d'insister car il était fier de ses jardins, sur la flore d'Ithaque qui ne compte qu'une graminée. Il leur dit comment Ulysse découvrit Achille sous une robe et le dénonça, berna le cyclope et l'aveugla, passa 8 ans avec une nymphe immortelle, et le temps seul vieillissait autour d'eux, sans rien en savoir qui laissa entendre que ces 3 exploits étaient en somme une dénonciation, un abus de confiance, un adultère. De temps en temps, il s'interrompait pour les éprouver et voir si, pris de court, il serait capable de garder le secret, criant subitement « Et toi là-bas, Crétas, qui est Ulysse ?»« Ulysse ?» répondait Cratès qui avait vu le piège. « Quel Ulysse ? Ah, voilà la première fois que j'entends ce mot. N'est-ce pas un Ulysse dont on se sert pour presser les objets légers quand souffle le vent ?» Et tout le peuple reprenait, et pour une fois la déférence remplaçait par une minuscule, la majuscule d'un nom illustre. En effet, que peut bien vouloir dire ce mot d'Ulysse ? N'est-ce pas le beignet que mangent les habitants de Naxos ? Ah non, c'est le carne pinto. Et que peut bien donc vouloir se dire ce mot d'Ulysse ? Non, d'Ulysse. Non, qu'il faut dans la bouche, non, oublié. Alors Alcinoüs, fier de ce peuple intelligent, souriait d'aise, et reprenant son discours, il leur racontait Circé, se trompant d'ailleurs dans l'épisode des animaux, qu'elle était aussi incompétent zoologue que puissant botaniste. Il leur montra Ulysse construisant lui-même son bateau dans l'île de Gygie, et les Phéaciens, tous armateurs, admirait, si l'on peut dire Ulysse, d'employer pour la carène le bois qui sert pour les mâts. Puis soudain Alcinoüs s'interrompait. « Et toi, petit Laïonos, réponds, qu'est-ce que c'est qu'Ulysse ?»« Ulysse ?» criait le petit Laïonos qui était naïf, d'âme prompte, et qui ne savait pas encore quel colorant distingue tout d'un coup les mêmes actes aux yeux de l'histoire, en crime et en exploit. Ulysse, c'est le mari adultère de Pénélope, l'ignoble ami d'Achille, l'assassin du cyclope. Alors on saisit le petit Laïonos, et la brise de mer relevant sa tunique, il lui fut appliqué sur les fesses une telle claque que la main resta gravée toute sa vie. On l'appelait la main d'Ulysse, et il la montrait dans les banquets. « Mes sœurs, » dit Nausicaa, écartant les roseaux, « voici l'étranger. » Nausicaa allait sur ses 16 ans de tout l'élan d'un cœur, d'un corps, de pensée, de jambes, qui en avait 15. Ce qu'elle adorait, elle adorait les mains des hommes. Parfois, une de ses compagnes, que ramenait au palais frère ou cousin, faisait passer du jardin la main du jeune homme à travers une grille et des rideaux. Le cousin sentait une petite main prendre la sienne, ne savait pas quelle main, et c'était celle de Nausicaa. Dans cette main d'homme, et non dans la sienne, elle s'accoutumait à lire son propre destin. Parfois, Apollon, frère et cousin de Diane, cette compagne invisible de Nausicaa, s'amusait, lui aussi, à attendre sous le rideau une main dont la ligne de vie n'avait commencement ni fin, où celle des talents était large d'un centimètre, et par détresse et par bonheur, elle pleurait sur cette trop belle main, qu'elle déplorait d'être mortelle, une larme qui s'écoulait toute pure par la ligne d'immortalité. Or, elle tenait la main droite du petit Laïonos, qui connaissait avec tous les pages ce râtelier de tendresse, et qui de la gauche frottait doucement la main d'Ulysse quand son père lui transmettait l'ordre de Minerve. Elle partit au devant de l'étranger pleine de joie, car encore naïve, elle croyait que les étrangers sont les auteurs des poèmes anonymes, des tableaux non signés, de la musique inconnue, des ruines. sentant les domaines étrangers de son âme plus riches que ceux dont elle avait la connaissance, elle s'imaginait qu'il en est de même des humains, élogeait le mystère et la perfection sur les hommes lointains, les hommes inexistants. Elle aimait ressentir ce qu'elle ne comprenait pas, être saisie de ce qu'elle ne saisissait pas. L'étrange, quoi, l'étranger. Sur son char, traîné par la mule et le mulet blanc qui pouvait procréer, d'où un flacon roulait parfois à terre et parfumait soudain la route phéacienne d'une essence de tyr, voilà qui lui venait à l'esprit que, pour cet étranger, elle serait une étrangère. Alors, tous les dons de l'étranger, l'habileté aux travaux d'art, la science du firmament, la participation au mouvement de rotation du monde, l'inondaient comme une grâce. Elle en laissait flotter les rênes sur le dos de son attelage, et les deux mulets, qui voyaient dans cette caresse une allusion à leur don miraculeux, se mettaient à mordiller doucement leurs naseaux et se frottaient par le col. Aussi le cortège fut-il long à arriver près de la mer où le fleuve s'y déverse. Déjà le petit Lyonos était dans l'embouchure et, tout nu, pêchait le saumon. Quand il vit les filles, il sentit tout d'un coup l'amertume des gouttes de la mer dont l'aspergeait la queue du saumon qu'il tenait à bras-le-corps et qui se débattait. « Ah, cher saumon, lui disait-il, que n'es-tu l'une de ces vierges? Que tes yeux fixes sont-ils leurs beaux yeux changeants? Tes écailles visqueuses, leur tendre peau? Tes babines d'os, leurs lèvres? Tes ouïes, leurs oreilles? Voilà juste l'écart entre les désirs de Lyonos et sa vie. Hélas, il m'advient pauvre et faible, ce qui est d'ailleurs l'apanage de tous les hommes. Mes bras s'ouvrent sur les femmes et se referment sur un poisson muet. Cependant, il sortait de l'eau et courait après elles, les faisant mordiller par sa prise. « Rentre vite dans ton eau, Lyonos de malheur !» lui criaient les filles. « On aperçoit la main d'Ulysse !» Elle riait de le voir regagner piteusement par pudeur la mer à reculons. Cependant, Nausicaa pensait toujours. Mais, se disait-elle, pour lui-même, cet étranger n'est plus un étranger. Il n'est à ses yeux propres qu'un être comme nous, c'est-à-dire connu à pleurer. Peut-être se connaît-il mieux encore que je ne me connais. Mon Dieu, comment sortir de là? J'aimerais tant aimer quelqu'un qui fût étranger, même à soi-même. Tout en pensant, elle lançait par fausse mégarde une balle dans la mer, et les suivantes, ainsi qu'il était convenu, poussaient la clameur qui devait éveiller Ulysse au fond de ses roseaux. Mais seul l'écho, qui répète tout endormi, leur fit réponse. 2, 3, 6, 12 balles furent lancées en vain sur les flots, où bientôt elles flottèrent comme les couvées de goélands qui n'ont pas réussi. En somme, continuait Nausicaa dans sa pensée, il n'y a d'étranger que ce qui n'est pas humain. Peuplier, et toi, clair de lune, et toi-même, croissant de la lune en plein jour, vous seul, mes chers choses Ulysse, quel vacarme ne ferait point les hommes pendant une série de siècles si Nausicaa revenait sans Ulysse au pays de son père? C'est alors qu'écartant les roseaux, elle entreprit avec les suivantes de chercher le héros, et chacune, selon le frémissement du vent, croyait la voir, poussait une clameur. Mais on ne réveille point un frisli de la mer ou un fantôme d'algues. Nausicaa, pourtant, à l'intersection de ces deux lignes, qui depuis la naissance du monde menaient Nausicaa et Ulysse l'un à l'autre, découvrit à demi flottant, dans l'embouchure, un corps auquel l'aide des dieux donnait une densité particulière. Les jambes étaient encore dans l'eau de la mer, le buste déjà dans l'eau douce, de sorte que ce naufragé devait sortir, quand un remous submergeait sa tête et sa bouche, que c'en était fini des peines marines et que commençaient les peines terrestres, non salées. le tirer par les cuisses et les bras, en écarter à pleine main l'ordure marine, loindre et le masser, fut pour les vierges l'affaire d'un instant. Jamais l'humanité ne fut décrassée par plus belle lavandière. Le résultat de leur malaxage ne fut point tel d'ailleurs qu'elles l'espéraient. De ce corps qui, dans la mer, semblait, preuve de sa divinité, ne pas obéir aux lois de la réfraction, dont les jambes étaient minces, le torse effilé, elles en obtinrent justement dans l'air ce que donne le corps d'Achille dans l'eau, des pieds trop larges, un bras démesuré, un bras atrophié, un nez camu, un menton à claquettes. Mais les jeunes filles croient encore que la laideur chez un prince est le comble de l'incognito. Depuis une heure déjà, elles essayaient en vain par des cris, puis par des coups, enfin par des chatouillements, d'éveiller l'inconnu. Pour la première fois appelée à tirer un homme de son lit, oh, je vous laisse imaginer combien de mots et recettes elles essayèrent pour ouvrir l'armoire du sommeil. Axileia eut une idée. « Mes sœurs, dit Axileia, un seul bruit peut réveiller cet homme. C'est le bruit de son nom. Nous allons toutes le crier à pleine voix, et nous n'enfreindrons point ce faisant l'ordre d'Alskinous, puisque, étant endormi, l'inconnu ne peut nous entendre et croira au fond de son rêve s'être appelé soi-même. » Alors les filles, penchées sur le corps et les mains en cornet autour de la bouche, poussèrent un cri d'Ulysse, tel qu'Alcinous et la ville entière l'entendirent et en frémirent. Une poudrière morale sautait aux environs. Puis elles se relevèrent doucement, comme ces calices de fleurs qui ont déversé leur pollen. Mais au seul nom d'Ulysse, Elpénor, car c'était lui, s'était réveillé de frayeur et s'inclinait. « Ô étranger ! Demanda Nausicaa, « qui es-tu ? » Elpénor se redressa, piqué. « Ah, pardon, répliqua-t-il, c'est toi qui es étrangère. » Nausicaa lui dit doucement, « Pourtant, ô notre hôte, ceci est ma patrie, ma ville, ces arbres sont mes arbres. » « Justement, j'allais le dire, repartit Elpénor, c'est une terre étrangère. Les parfums dont m'avait inondé sont des parfums étrangers. Comment appelez-vous cet arbre ?»« Le dendrodendron, dit Nausicaa. »« Vous ne me direz pas que ce n'est pas un nom étranger, dit Elpénor. » Alors les filles, voyant le front de Nausicaa s'obscurcir, lui dirent « Mais tu n'es pas d'un pays invisible, d'une île inconnue. » « Ah, pardon, dit Elpénor, c'est votre pays que je vois pour la première fois, c'est votre île qui est inconnue. » Axileia, devinant les larmes dans les yeux de sa maîtresse, et pour repousser l'étranger de ce radeau du déjà-vu auquel il s'agrippait, avec son acharnement et son habileté de vieux naufragé, prit la parole. Pourtant, ô illustre, si nous examinons, nous découvrons certes que chacun de tes membres, tes yeux, ta bouche, peuvent trouver leur équivalent chez nos cousins et pères. Mais une langueur cerne tes paroles, une nuit sort de ton regard. Il y a entre nos questions et les réponses un intervalle où se loge l'impondérable et qui donne le même bruit qu'un coquillage. Ton silence est une mer étrangère. « Erreur, erreur !» répondit Elpénor. « J'entends tout, je vois tout. Vous n'irez pas dire, quand je me tais, que j'ai l'accent d'Ithaque. Bon, »« Nous n'en sortirons pas, » pensa Axileia. « Mais alors, » reprit-elle, « une fois reconnu que ni toi ni moi ne sommes étrangers, tu avoueras bien qu'il y a des tiers et que les habitants d'îles étrangères à la fois à Ithaque et aux Phéaciens sont des étrangers. Mais évidemment, la belle, dit Elpénor, rien de plus étranger. Entendu, reprit Axileia, mais supposons que l'un d'entre eux arrive en ce moment. Ne tiendra-t-il pas le même raisonnement que toi? Oh, mes sœurs, la réalité n'est pas la réalité, puisque la non-existence n'est pas la non-existence. Il n'y a pas d'étrangers en ce monde. Oh, pardon, reprit El Pénard. Notre navire fit un jour escale dans un pays dont les habitants s'appellent eux-mêmes les étrangers. Nous sommes les étrangers, nous répondirent-ils, quand nous abordâmes, et leurs femmes fièrement se qualifiaient d'étrangères. Voilà ce qui nous aurait évité cette discussion. Ils avaient des miroirs déformants qui ne leur donnaient jamais qu'une idée approximative d'eux-mêmes. Ils croyaient leur vie et leurs actes déterminés par un destin inéluctable qu'ils appelaient la grâce. Ils n'estimaient pas que leur souffrance était leur. Étrangers, ils n'avaient pas d'égoïsme, donnaient tout, leurs statues, leurs tableaux. Ils étaient tous plus beaux l'un que l'autre. Et comment était le plus beau? Comment s'appelait-il? Demanda Nausicaa. Il était plus beau que lui-même, répondit El Pénard. Mais il n'avait pas de nom, pas plus que ses compatriotes. Ils prétendent que le nom et même le prénom étiquettent jusqu'au subconscient de l'être. D'ailleurs, jeune fille, une femme te ressemblait. Non, il n'y a pas à discuter. Tu es bel et bien une étrangère. C'est ainsi que les vierges étaient rassemblées autour d'El Pénard. De loin, Laïonos, jaloux, dans les bras duquel se débattait le saumon qui avait voulu fuir, disait à son prisonnier « Ah, saumon, regarde-les toutes, folles autour de ce nabot, parce qu'il apporte une odeur étrangère. Ah, combien je préfère, saumon chéri, avoir à lutter contre toi qu'avec un de ces êtres appelés femmes. Au moins, tu penses à moi en ce moment. » Tandis que le jour, m'a-t-on dit, où je lutterai pour de bon avec une de ces vierges, elle pensera aux absents, aux dieux, à sa mère, à tout et à tous, excepté à Laïonos. Assemblez le peuple, cria Alcinous. Alors tous les artisans abandonnèrent leurs tâches, vite ou lentement, selon qu'ils avaient affaire aux poussières du monde, comme les meuniers et les broyeurs de couleurs, ou aux éléments gluants comme les peintres de carène et les marchands de miel. Près d'eux couraient leurs enfants, marqués qui de tache, qui de poudre, qui d'un objet d'argent ou d'or, comme s'ils les avaient eus de leur métier et non de leurs épouses. « Peuple !» cria Alcinous, « écoutez la plus inattendue des nouvelles. Un naufragé a été recueilli près du lavoir de Carados. Qu'il est, dieu ou demi-dieu, et si le sort a daigné nous servir aujourd'hui une portion ou une demi-portion de divinité, c'est ce que j'ignore encore. Il était recouvert d'une part avec cette algue des bas-fonds qu'on n'a jamais trouvée que sur les malades ou tritons morts, mais sur lui, d'autre part, jouait ce soleil mordoré qui est la lumière, paraît-il, de ceux qui vivent aux fêtes des nus, et que nous apercevons parfois d'en bas sur un bel aigle. Telle est la marge dans laquelle il faut le situer, du zénith au nadir. » Cependant, les coryphées parcouraient la foule, lui transmettant l'ordre d'Alcinous de crier, quand elle n'aurait pas d'opinion ou serait pleine de réticence, une réponse de pure forme. L'éloge, par exemple, d'un arbre ou d'une fleur. Alors Alcinous leur montra El Pénard. Près du prince, l'inconnu paraissait un nain. Ne doutant pas que ce cagneux ne dût se muer subitement en un héros, Alcinous l'avait fait recouvrir d'étoffes trop longues et trop lourdes, sous lesquelles il suait. Tout le faisait ressembler à un chien en robe, jusqu'à ses pauvres yeux fidèles. « Voilà notre hôte, ô peuple !» cria Alcinous. « Que pensez-vous de lui ?»« Honneur au chêne-liège et au sapin !» cria le peuple d'une voix. « Mêlons dans notre bouche ces deux feuillages qui ne s'entremêlent jamais. Aucune raison d'ailleurs de jamais réunir les noms de ces deux arbres. L'un accapare le son et l'autre le renvoie. L'un bouche nos bouteilles et l'autre fait nos cercueils. Changer une maison entourée de chêne-liège contre une maison entourée de sapin, c'est changer le silence contre le vent, la pensée indolore contre l'angoisse. Ah, quel plaisir ambigu de les unir dans le langage humain, céleste pépinière! Alors Elpénor se leva, non sans bousculer les princes, car depuis qu'il avait séjourné aux enfers à titre d'ombre, il n'avait pu reprendre une conscience exacte de sa solidité. Depuis cette époque aussi, comme toutes les ombres les plus célèbres l'avaient envié de revivre et accompagner plus jalousement au locher que corps diplomatique à la gare, le collège qui rentre à Paris, il s'imaginait que c'était non pas la vie qui avait été l'objet de cette jalousie, mais sa vie à lui, la vie d'Elpénor, son corps à lui, ses plaies, ses bosses. Il en avait pris un orgueil inconcevable, racontait à tout propos son existence et étalait ses tristes membres. « Prince, cria donc Elpénor, écoute qui je suis. Pour revenir au monde dans ce torse, j'ai vu Ajax et son rival prêts à recommencer leur combat. Né d'une criminelle inconnue dans un cachot de corsire, je fus abandonné par elle dans la prison, et c'est là que passèrent mes premières années, si enviées d'Achille. J'étais loué aux mendiants, libéré. Le premier me rendit cagneux pour exciter le rire et me fit ses genoux en boule, si admiré de Paris, si le second, pour exciter la pitié, me désarticula cette hanche, que Patroc voulait me troquer contre son renom lui-même. Pas de sentiment de l'effroi à l'hilarité qui n'est obtenu d'Elpénor comme d'une harpe, non en pinçant mes cordes, mais en me rompant un os ou un tendon. De là ce squelette tordu, dont Hélène d'ailleurs, oui, je cite ses paroles, s'estimerait comblée. Seules ces tumeurs aux lèvres ne sont pas le fait de mes maîtres, mais le mien. Ne sachant pas que le feu rougit les métaux, et voyant dans une forge un fer à cheval pourpre pendu à une baguette de cuivre, oh, j'eus l'idée de la saisir avec les dents. C'est ainsi qu'Elpénor contait avec orgueil cette déplorable existence. Un seul jour dans sa vie, il avait mangé de la viande fraîche. Un seul jour, des olives non pourries. Il comptait sa jambe coincée dans les rayons du gouvernail pendant que le navire courait sur un récif. Son orteil pris dans la godaille du mât d'Artimon. Ses lobes accrochés par l'étau du grand phoque. Pas une articulation de la trirème qui n'eût agrippé. Elpénor et de lui marquer. Toutes les besognes de propreté étaient exercées sur son corps par le navire, ses ongles coupés annuellement par les tenailles du Beaupré, ses cheveux scalpés par les vergues, ses oreilles nettoyées par l'orage. Cette persécution des dieux était d'ailleurs gratuite, car Elpénor jamais n'y gagna plus de raisonnement, de sagesse, ou d'esprit de relativité. Telle était la vie en loque qu'il déployait aux yeux des Phéaciens. Mais ceux-ci voyaient au travers des trous la doublure de l'épopée, et ne le trouvaient point ridicule. Heureux de son succès, Elpénor plaçait enfin les histoires que l'équipage d'Ulysse avait refusé 20 ans d'entendre de sa bouche. L'histoire de son canard apprivoisé qui se noya dans la fontaine publique, de sa jument qui ne reculait jamais si on la plaçait derrière au mur. Et il posait la devinette, la seule qu'il sut, de ce qu'on lance blanc et qui retombe jaune. Le peuple, content d'avoir deviné, criait que c'est un œuf. Mais Elpénor disait que c'était l'homme, que les dieux lancent blanc sur cette terre, et que la vieillesse en laisse tomber jaune. « Oh, Alcinous !» s'écriaient les Phéaciens. « Remercie les dieux d'avoir envoyé cet étranger sur notre île. C'est le charlot de l'Odyssée. Le jour même où les mouches charbonneuses m'infectèrent ce bras, continuait Elbénor, je fus recollé par le quartier-maître d'Ulysse. À ce mot Ulysse, tout le peuple se roidit. Aucune parole, aucun souffle ne sortit plus d'aucune bouche, et les enfants eux-mêmes continrent leurs mouvements. « Vous avez bien ouï parler d'Ulysse ?» demanda Elpénor, surpris de ce silence. « Jamais, jamais !» cria le peuple toujours pétrifié. « Voyons, dit Elpénor, pas de malentendu. Vous m'avez mal suivi. Je vous demande si vous avez ouï parler d'Ulysse. Est-ce ce mot d'ouïr qui vous surprend ?»« Ben, je l'emploie quelquefois, car Hélène aux enfers l'aimait. C'est elle qui me l'a appris, ainsi que le mot remembrance. Je vous parle d'Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithaque. » Alors, comprenant les signes d'Alcinoüs, ils crièrent tous, du plus petit au plus chenu, « Bon étranger, tu as entendu parler de ce que c'est qu'une hypothèse ? C'est une supposition gratuite qui explique une série de faits de l'univers et qui reste valable jusqu'au jour où une plus logique est trouvée. C'est ainsi que nous expliquons par l'enlèvement au ciel des héros les constellations, par les métamorphoses de la forme humaine des arbres ou l'accent des ruisseaux, par la fatigue de la rétine, le rayon vert qui jaillit du soleil couchant. Oui, certes, nous savons qu'Achille fut découvert sous des habits de femme, qu'un cheval a été introduit dans Troie, qu'un cyclope a été berné, que des sirènes ont en vain de leur promontoire appelé un navire. Mais... peut-être d'ailleurs mal renseigné, pour réunir des espoirs si différents sous une même rubrique, assurer qu'un mortel ne pouvait les revendiquer à soi seul, nous les attribuons jusqu'ici à la suggestion. On n'étouffe pas, écoute-nous. Rien de plus vraisemblable que le cyclope, à force de redouter la perte de son œil unique, ait cru devenir aveugle. Que les Troyens, privés de la septième année de cavalerie, aient cru voir soulager chez eux un cheval gigantesque. Le phénomène est courant. Mirage, suggestion. Remarque, étranger, que nous n'avons même pas recours à l'hypnotisme, ni au fait de dématérialisation, ni même au rêve. Mais erreur, erreur ! Cria Elpénor suffoqué. « Nous ne demandons pas mieux que de changer d'hypothèse, » criait le peuple, encouragé par les signes d'Alcinoüs, « et d'attribuer ces phénomènes à la gravitation, à la lévitation. » Ainsi parlait-il pour fournir à celui qu'il croyait Ulysse les occasions de se révéler, et il se mit à lui poser des questions qui semblaient tirer d'un manuel même de l'Odyssée. Si Pénélope était brune, si le cheval de Troie était de hêtre ou de chêne. Mais c'étaient justement les questions auxquelles le pauvre Elpénor ne pouvait que mal répondre. Il n'avait eu avec l'épopée qu'une étroite mais médiocre liaison. Il était simplement un spécimen de tous les milliers d'ignorants et d'anonymes, peu curieux, qui sont le canevas des époques illustres. Il n'avait touché de ses héros et de ses immenses exploits que la partie méprisée. Il connaissait Achille pour avoir décroté son talon un jour debout, Ajax pour en avoir reçu un crachat à son banc dans la trirème, Circé pour avoir aidé Éclissée à brosser le démêloir. Le jour de la prise de Troie, il nettoyait la cuvette des cubes. Le jour de la colère d'Achille, il était de corvée aux oignons. Le jour de la mort de Paris, il méprisait le péplum de Tersite. Il ne connaissait le monde et le demi-monde épique que par son plus piteux envers. Les grandes dates de la mythologie lui servaient uniquement d'aide-mémoire pour les faits méprisables de sa vie. Le soir de Briséis, Il avait au dé gagné deux drachmas nommés Berios. Le soir d'Andromaque, il avait bu du petit vin des Amazones avec un homme Étracopis. Épirus et Calypso et Agamemnon étaient seulement pour lui les supports d'inconnus surnommés Latacobos, Péripérilalos ou Vagapolo. Mais il ne pouvait se résoudre à ne pas croire à cette épopée, comme un valet de chambre à l'existence de son maître. Il vidait les eaux de la fable. « Voyons, étranger, disaient les Phéaciens, nous demandons qu'à te croire. As-tu entendu les sirènes ?»« Non, répondait Elpénor confus, mais je les ai vues. Voir des sirènes ne présente aucun intérêt, disait le peuple, pas plus que voir un violon. Et le cyclope, l'as-tu vu ?»« Non, répondait Elpénor, il faisait nuit dans cette grotte, mais je l'ai entendu. Et tu te moques de nous, ô étranger ? De l'Odyssée, tu as vu tout ce qu'il fallait entendre et entendu tout ce qu'il fallait voir. Et Calypso, l'as-tu touché ?»« Non, répondait Elpénor, mais je l'ai senti. »« Suggestion, suggestion !» cria alors le peuple. « Tout n'est que suggestion. Cet étranger a mangé les paysages, écouté les aliments et senti les paroles. « Mais Éclissé !» cria Elpénor mugissant. « Direz-vous qu'Éclissé, favorite du célèbre Elpénor, n'était aussi que suggestion ?»« Oh, certes non !» répondait le peuple. « Certes non !» Si tu le montres sur toi, une trace d'Éclissée. Il n'est même pas besoin qu'elle soit comparable à la trace de ce fer rouge que tu n'embrassas pourtant qu'une fois. Tu ne nous feras point croire que tout marque sur toi, excepté l'amour. Éclipsez ne mordait pas, n'égratignait pas. C'est qu'elle est moins passionnée que la suggestion, qui rend les hommes assassins et les femmes enceintes. Quand une amante mord son amant au cœur au lieu de le mordre à l'épaule, c'est qu'elle n'est pas sûre de ses dents, pas sûre de sa réalité, c'est qu'elle est édentée ou n'existe pas. Choisis pour Éclissée. Alors Alcinous, voyant des larmes dans les yeux de son hôte, remit à l'après-midi les concours de gymnastique et d'art où il devait se révéler, et il le fit escorter dans son appartement par le petit Lyonos. Mais Elpénor se lamentait et ne pouvait jouir de la sieste. Alors Lyonos, que l'image d'Hélène hantait, chercha à lui faire dépeindre la fille de Léda en le flattant à propos d'Éclissée. « Ô étranger, dit-il, je crois Éclissée. » Elpénor lui sourit. « Oh, que n'est-elle là, petit Lyonos ? Je te ferai toucher ses bras. Tu la prendrais si tu voulais. »« Je quoi ?» demanda le petit Lyonos, qui était pur. « Tu la prendrais dans tes bras, tu la pendrais à ton cou. »« Hélène, ô notre hôte !» Ils parlèrent longtemps, car après chaque description d'une part vivante d'Éclissée, Elpénor devait décrire la même part d'Hélène dont il ne connaissait que l'ombre. La gorge d'Éclissée était fameuse, elle me soulevait d'une haleine. Et Hélène, elle haletait doucement, mais d'un souffle qui ne ternit aucun miroir. Pour les yeux d'Éclissée, ils étaient si vifs que des moucherons s'y prenaient. Oh, c'était alors une belle comédie. Et ceux d'Hélène ? Ils n'avaient pas de regard, ils étaient sans prunelles. Et Elpénor conta ce jour où, aux enfers, son ombre et celle d'Hélène s'étaient mêlées. Il avait eu, et étant court de taille, la tête prise à la hauteur du cœur d'Hélène, la jambe gauche dans sa droite, l'épaule dans sa hanche. Seule une de ses mains sortait du corps divin. Il en riait. Mais cette confusion représentait justement pour Lyonos ce qu'il croyait être l'amour. Laïonos pensait que l'amour, c'est entrer dans un être qui entre en vous, contenir un être qui vous contient, embrasser les lèvres qui sont vos lèvres. Et cette mixture de deux ombres lui semblait la seule réalité. Que de fois déjà il s'était amusé à suivre la belle Clio, à se loger dans son ombre, logement bien étroit à midi qui la collait à elle, vaste palais au couchant. Il y circulait, il invitait le giron, la gorge, s'amusait à tomber près de sa tête, à l'embrasser, mais il n'en recevait qu'un goût de poussière. « Comme des laines, » murmura Elpenor, qui cédait au sommeil. Alors le petit Laïonos, que l'idée des femmes ne quittait pas, alla machinalement tendre sa main, comme il tendait entre les roseaux ses lignes de fond, entre les grillages et les rideaux des filles. Et bientôt, cinq douces et sèches anguilles ouvrirent tendrement ses doigts. Mais il s'imaginait être Elpenor dans l'ombre d'Hélène, sa main dépassant, et la seule part de son corps qui ne fut point accablée de bien-être était justement celle que caressait Nausicaa. « Étranger, » dit Alcinous, quand le stade fut plein, « indique tes jeux préférés, et ils seront les nôtres. » Rien n'était plus fixe et immuable que le programme des jeux phéaciens, et même l'ordre de la dispute. Il était débuté par la course de 192,60 mètres, départ arrêté, continué par le concours de poésie épique, dite rationnelle, c'est-à-dire dont l'expression comportait trois strophes rimées et sans accent tonique, terminé enfin par le lancement du javelot de buis contrôlé à 12 onces. Il en était de fait ainsi comme du reste de l'univers, où l'homme n'admet de variété que dans ses mots. Mais Elpenor, qui ne connaissait que le jeu des quibes, espèce de jeu de loto aimé par les équipages, s'écria, trompé par la politesse de son hôte, « Ô Phéacien, quel jeu plus noble que celui des quibes ! Le langage chiffré est celui qu'emploient les dieux, et le monde, disent les philosophes, est construit sur des chiffres. » Alors le peuple enthousiaste s'écria, peu soucieux de s'être rassemblé pour une partie de quibes, « Comme l'étranger a raison !» Le seul vrai jeu, ce sont les quibes. Le seul langage est le langage chiffré, et celui de l'étranger est le plus chiffré de tous, puisqu'il nous invite ainsi à la course départ arrêté, à la poésie à trois strophes et au lancement du javelot. Du javelot de buis ou de chêne, ô étranger ? De chêne. Toujours ton langage chiffré. Ce sera donc de buis, si tu l'ordonnes. Et de 12 ou de 14 onces? De 12? Obéissons-lui, de son désir. On plaça donc les rivaux sur une ligne. Ils étaient 4. Le petit Laïonos, le champion Rixenor, Elpenor et un coureur gaulois qui visait les Jeux Olympiques avait inventé le départ à bascule. Il venait de creuser 2 trous d'inégale profondeur pour appuyer ses pieds, il accumulait du sable pour maintenir ses mains et tenait dans sa bouche, pour que la tête fût dans l'axe, un fil de plomb qui servait aussi de contrepoids et qu'il allait lâcher au signal. Le plus beau des coureurs était Rixenor. Cousin et prétendant de Nausicaa, c'était lui qui avait appris à la princesse le lancement de la balle, qui lui avait appris ce geste dont l'histoire des jeunes filles et les légendes ne devaient reconnaître l'égal. Il était le père de celui qui enseigna Sakuntala à se défendre des abeilles, Virginie à ne pas se déshabiller dans la tempête. Il était un des 3 ou 4 êtres humains qui ont orné la grâce. « Concurrent !» cria le juge. « Êtes-vous prêt ?» Tous étaient prêts. Déjà le coureur gaulois avait levé sa croupe. « Non !» cria Elpenor. Mais le signal était donné, et le petit Lyonos, tenant tête au champion Rexenor, coupait en même temps la ligne d'arrivée, suivi de loin par le coureur gaulois qui s'était pris le fil à plomb dans les dents et qui feignait de s'être foulé la cheville, lorsqu'Elpenor se décida enfin. D'une jambe cagneuse et comme un cloche-pied, il rejoignit les vainqueurs, arrêtés, et déjà le peuple murmurait quand Alcinous s'écria « Oh, mes amis, quelle leçon de modestie nous donne l'étranger !» Jusqu'à ce jour, la modestie se confinait aux qualités morales. Et la voilà qui, grâce à notre hôte, va gagner les talents physiques. Heureux qui élargit le champ d'une aussi belle plante. Nous avions des hommes d'État modestes, des militaires modestes, des vierges modestes, et grâce à lui, nous aurons désormais des coureurs à pied modestes dans leur course même, des pugilistes modestes en plein pugilat. Ô étranger, je te proclame le premier, car le premier, celui dont l'image se grave la première, dans le cœur et non dans les yeux. Et maintenant que les concurrents du prix poétique gravissent l'estrade. Voici le sujet, sujet choisi par Démodocus lui-même. Démodocus sait que le devoir poétique consiste à soustraire un peuple à sa raison et à sa latitude. Voici le sujet, l'éveil du printemps dans les pays du Nord. Certes, tous, marins et insulaires, eussent préféré un des trois thèmes habituels. Nécessité de ne pas relier les îles par des tunnels en continent, inutilité pour les peuples du continent de posséder flotte et flottille, nécessité, si Icare eût volé, de ne pas le laisser se promener sur l'île des Phéaciens. Mais ils firent silence par réserve pour l'étranger, et le premier concurrent, Phranoaïnos, s'avança. Poète lauréat, Phranoaïnos savait la malice des maîtres et cherchait tout d'abord à comprendre la pensée secrète qui, d'après lui, avait dicté leur choix. Il était sournois et croyait la muse sournoise. Les homonymes l'enchantaient, car il y voyait des mots hypocrites. C'est par fourberie qu'il employait les périphrases. Il avait gagné déjà plusieurs prix à flairer des pièges sous des titres en apparence inoffensifs, et il put en découvrir justement un terrible dans celui-là. Puisque les pays du Nord étaient le contraire des pays du Sud, de l'Hellade, le printemps ne pouvait être que le contraire du printemps grec, à savoir une saison de deuil et de tristesse. Et au lieu de saisir sa lyre à bout de bras, de l'élever triomphant, de rejeter la tête en arrière, comme il est d'usage pour tous les hymnes au printemps, il se voûta, fronça son visage, retint mollement contre soi-même l'instrument, et le sablier coulé, déclama tristement ces trois strophes, et les voici finalement écrites. Éveil du printemps dans les pays du Nord. Déjà l'hiver va s'en allant. Le beau ciel n'est plus brûlant, ni sa couleur. Ô beau ciel, plus de paillardes sur les verveines et gaillardes en toutes fleurs. La neige couvre toits et tombe. Soleil de neige, tu succombes, c'est le printemps. Le chasseur fonce dans la terre, mais le pêcheur marche au haut mystère sur les étangs. Chaque pucelle, folle ou sage, double son cœur et son corsage en même temps. Le satyre non plus ne pille du voisin la femme ou la fille, c'est le printemps. Alors le peuple cria médiocrement satisfait de la licence que s'était permise Phranoainos, qui n'avait pas fait alterner dans la première strophe rime féminine et masculine. Ô Alcinous, que pouvons-nous louer le plus? La ruse de Phranoainos qui nous donne la nostalgie d'un hiver feuillu et touffu? Ou ce début, faute volontaire de prosodie en rime masculine? Cela fait 20 fois plus soleil affaibli, soleil anémique. Ah, mais voilà le second concurrent. Cependant, une lumière divine se répandait soudain dans la ville des Phéaciens. Une aurore naissait en plein midi. Le vent mêlait les feuilles des peupliers pour un gros lot divin et ses belles traces indigo que laissent derrière lui les roues du char quand il a plu luisaient dans chaque ornière de la mer. C'est que le deuxième concurrent annoncé sous le nom de Canope, parent d'Alcinous, n'était autre qu'Apollon. Averti par les muses de tout concours important, il ne daignait pas de descendre de l'Olympe et de se mesurer aux humains, certain de l'emporter sur eux. Ce jour-là, d'ailleurs, il se sentait inspiré, et en effet, dès qu'il eut pris sur l'estrade, accordant sa lyre la place de Phranoainos, il improvisa, sans même réclamer une des 5 minutes accordées, le bel hymne suivant. Mais, particulièrement en verve, au lieu d'employer le rythme uniforme usité de tout âge par les aèdes, il eut recours pour la première fois aux formes syncopées qui donnent au péon plus d'expression. Et pour la première fois aussi, égayé par l'ébahissement d'un matelot nègre embordé dans l'île, il obéit à un mouvement de bien-être secret qui lui fit introduire les silences au lieu des temps vides, les plaçant même après les longues et aiguisant la dipodie. Ce n'est pas tout. Laissez-moi vous décrire ce qu'était l'inspiration d'Apollon et la poésie grecque. Profitant d'une tendresse qui amollissait jusqu'à sa voix, d'une longue étirée qui valait 1 pied et demi, il inventa de ne former qu'un seul pied de 2 brèves allongées, qui valaient à elles seules 2 fois la même longue, forma le pied correspondant, et il sentit alors son sang accélérer sa course, car il venait de n'inventer rien moins que le dactyle cyclique. Ce n'est pas tout. Cherchant, comme cela était naturel sur ce chemin de trouvailles, à dénouer le rythme égal par un rythme double, et dédaignant contre toute habitude la dipodie trochaïque classique, il ajouta, dans une angoisse heureuse, à laquelle la vue de Nausicaa n'était pas étrangère, la valeur de 1/2 avant le second temps fort, retrancha la valeur égale qui le terminait, et alors il tressaillit jusqu'aux entrailles, car il venait de n'inventer rien moins que l'anapeste cyclique. Ce n'est pas tout. Décidé à ne rien perdre de cette inspiration qui n'était pas sans le surprendre et l'inquiéter, puisqu'un dieu, après tout, n'a pas de dieu qui l'inspire, et qu'il avait ainsi l'impression d'une poésie supérieure, même au dieu des poètes, et quoique distrait une seconde par la révélation, sous un coup de vent de la main d'Ulysse du petit Laïonos, il poussa à l'extrême l'emploi de ceux parmi les pierres rationnelles dont personne jusqu'ici ne s'était sérieusement préoccupé, en un mot des stroguloi. Il joua de leur ressemblance avec les péripléos, et, réforme réservée à un dieu, au lieu d'alterner dans le pied rythmique le temps faible avec le temps fort, il eut l'audace d'utiliser exclusivement, malgré le murmure des peupliers qui incitaient aux trochers atténués, le temps fort. Il est doux de s'abandonner à la simple et facile poésie. Et parfois, clignant de l'œil vers l'assistance, Il s'amusait à employer l'épitrite dans un sens badin, et rachetait aussitôt ce mouvement mutin par des trochets de deuil. Bref, et pour nous résumer, Apollon venait de créer et de libérer la poésie irrationnelle. Voici ce petit morceau. Il est le monument le plus parfait de la poésie grecque, car il y éclate une connaissance égale de l'univers et des dieux. Il est regrettable que, dans une vanité dont lui-même se rendit mal compte, Apollon ait employé pour parler des humains que les termes réservés par les humains aux animaux. Éveil du printemps dans les pays du Nord. Les dieux qui ce matin ont effleuré la terre ont senti à leurs orteils une brûlure. La neige fondait. Chacun appela de l'Olympe une déesse pour jouir de sa surprise. Hébé, nue et qui portait le vin, alourdi de sa mission comme d'une promesse de fils, entra dans la croûte blanche jusqu'aux cuisses. Bacchus lui aussi, empêtré de ses pampres. On suivait l'aigle de Jupiter, les ours, les tigresses du cortège, à leurs traces dans la neige. Soudain, au détour du chemin forestier de Bergame, le fjord apparut déjà craquelé à flore, couverte d'édelweiss. Sur des traîneaux, sur des patins, naïades et tritons s'exerçaient, suivis au-dessous de la glace transparente par les bancs de leurs poissons familiers, esturgeons et sterlets. Les avalanches commençaient à glisser, les oiseaux bleus, les faisans de Chine, les paons voletaient alentour. Dans les vallées, le nuage des haleines était déjà moins épais autour du cheptel humain. C'était le printemps. Apollon, le plus beau des dieux, d'un soleil indélébile, tachetait les daims, zébrait les zèbres. Et soudain, tout fondit. Les avalanches commençaient à glisser. Les oiseaux bleus, les faisans de Chine, les paons voletaient alentour. Dans les vallées, le nuage des haleines était déjà moins épais autour du cheptel humain. C'était le printemps. Apollon, le plus beau des dieux, d'un soleil indélébile tachetait les daims, zébrait les zèbres. Et soudain, tout fondit. Les avalanches devinrent cascades, la glace se retira au fond de l'océan, entraînant dans leur élément naïades et tritons. Le printemps arrivait. Les femmes et princesses cherchaient déjà dans les prairies les herbes et salades dont elles feraient la pâtée de leurs mâles. Ainsi chanta Apollon, et délirant de ses trouvailles, il eut même l'audace de finir la triade à la façon d'une parabase. Car il a remarqué que rien ne porte la foule aux applaudissements comme les normes triadiques. Ce n'est pas tout. Il ne se borna pas ce jour-là à modifier le rythme, le vers, la musique. Usant de son privilège divin, il modifia la lyre elle-même, changea ses boyaux de fer en boyaux de chat, les chanterelles de buis en sapin, innova une pose du pied et une attitude de la glotte, inventant le zézément. Mais les Phéaciens, outrés de ses licences, et des insultes aux hommes, ne devaient pas manquer, eux dont le langage n'était jamais que flatterie, pour une fois où ils recevaient un dieu, de lui faire un affront, et le seul jour où ils auraient dû se taire, fut le seul où ils exprimèrent librement leur avis. « Oh, Alcinous, dirent-ils, celui-là s'est mis hors du concours. Nous sommes des humains, certes, de pauvres animaux, mais le bétail a sa dignité, et il n'est pas un de nous qui emploierait l'épitrite dans un sens badin. Le sadisme musical n'est pas notre fête, non plus que de plonger les nymphes nues ou grosses dans la neige. » Alors Elpénor s'avança. Maintenant Elpénor était lié à un tronc d'olivier, loin de la ville des Phéaciens, et il était entouré par les muses. mais celle-ci ne portait point leur attribut habituel, astrolabe, combat ou masque, et bien l'instrument de torture qui correspond à leur secrète cruauté, l'histoire des poignes empoisonnées. La poésie lyrique, une scie, la poésie légère, un rasoir. C'est qu'Apollon, irrité du trion d'Elpénor, qui, incapable d'inventer, avait chanté les refrains de l'équipage, la Fionie et Meunier baisant la galère, les faisant reprendre en chœur par les Phéaciens et méritant le premier prix, l'avait enlevé pour l'écorcher. Dans leur colère, les muses se souciaient peu de leur voile, et si Elpénor n'avait ressenti une angoisse inconnue, il aurait pu voir bien des trésors. Seul, je crois, l'astronomie gardait quelque pudeur, et du fait que l'homme qui la voyait allait mourir, n'en avait pas moins de modestie. « Mes filles, dit Apollon, commencez votre ouvrage. » Elles le commencèrent au milieu de la douceur que leur présence apportait toujours à la nature. L'herbe avait les parfums de toutes les fleurs. Du vieil olivier montait l'odeur de tous les fruits. Pas un pli dans la mer, pas un dans le ciel. Alors l'histoire enfonça ses pointes sous les ongles d'Elpénor. Alors Melpomène passa une aiguille à travers ses joues. Comme ses pauvres pieds, salis par la course, remuaient convulsivement, et Rateau coupa ses orteils avec un rasoir. Puis Terpsichore arracha un par un les rares cheveux de son crâne, tout le malheureux poil qui avait résisté aux aventures complètes de l'Odyssée. Puis, chauffant des coquilles de noix, Polymnie les appliqua sur sa langue. Alors il se plaignit. « Muse, muse, dit-il, mais pour qui me prenez-vous ? C'est un malentendu. Je ne suis pas de ceux auxquels jusqu'ici ont daigné s'attaquer les dieux. Je suis Elpénor. » Mais Apollon continua d'exciter ses filles, outré de ce qu'Elpénor, en chantant la Fionie, se fut accompagné de la petite flûte non de la lyre, et craignant que les muses ne jugeassent Elpénor un objet par trop méprisable et indigne de si grands supplices, il lui fit pousser des cornes, des sabots, lui donnant l'apparence de Marsyas, leur vieil ennemi. Il en oublia même de lui laisser la mémoire d'Elpénor. Et Elpénor, au lieu de revoir sa vie dans cette minute suprême, revit la vie heureuse de Silène, l'enfance dans les prairies encore humides de la première rosée du monde, le viol de la première nymphe, le viol de la millième, et une grande haine des dieux le prit. « Allez-y donc, muse, cria-t-il. Oui, je suis Marsyas. Oui, je méprise la suffisance, la cuistrerie de votre académie. Académie, dans tous les sens. Oui, vieille fille, vous êtes et resterez avec votre perroquet Apollon, nourri de graines de soleil. Mais dites-lui bien qu'il se trompe s'il croit à l'avenir de la lyre, instrument ridicule et que des oiseaux portent au croupion en dérision. L'avenir, ô vieille fille, est à la flûte, et je donne rendez-vous dans 3000 ans à Apollon, car la lyre est un instrument divin, c'est-à-dire mécanique, stérile, commandé par la technique, tandis que la flûte, ô muse, est le souffle même de l'homme, créature indomptable et qui emmerde les dieux. Alors l'histoire lui ouvrit le ventre, en sortit les entrailles. Calliope sectionna la peau du bras en bracelet vers l'épaule et la rabattit. Terpsichore ouvrit son crâne et mit un nul cerveau. À la vue de ce cerveau, toutes hésitèrent une minute. Rien ne ressemblait plus à un cerveau de crétin. Il y manquait les cases de l'orientation, de la jalousie, de l'association des idées. Un pigeon n'eût pu en tirer parti. Tous ces témoignages d'insuffisance, tous ces organes anémiés que l'on avait malgré eux proclamés vainqueurs, dévoilaient leur débilité et demandaient grâce. Apollon sentit le danger et changea Elpénor en géant. « Muse, ordonna-t-il, continuez votre travail contre cet ennemi des dieux. » Elles se remirent donc à pincer cette lyre des souffrances humaines. Elpénor se croyait le géant Pirithoüs. Ce cerveau de 20 ans se rappelait avoir escaladé le ciel, lutté corps à corps avec Mars. Puis, une aiguille lui ayant traversé le foie, il crut être Prométhée. La mémoire de tout ce qui était mort, la future pensée de tout ce qui devait mourir pour le bonheur de l'humanité, l'habita un instant. Il fut soulevé par une affection immense des humains, de ces humains pour lesquels il avait dérobé le feu, inventé l'écriture, la poudre et la boussole, de ces femmes pour lesquelles il avait dérobé à Vénus le miroir et le rouge, et la divination des vaccins, de la roue de brouette, de la vapeur, l'inondait de joie. Parfois, il poussait de grands cris pour s'encourager lui-même. Et Apollon fit boucher le cire ses oreilles, ainsi qu'Ulysse l'avait fait autrefois pour les sirènes. Sa sirène, pauvre Elpénor, c'était lui-même. Il ne s'entendait que mieux à l'intérieur de son crâne ouvert. Il se racontait toutes les vengeances qu'il tirerait des dieux dans les siècles à venir, à l'aide des sorciers, de la littérature et des révolutions. Puis il eut un sursaut, car Apollon lui-même s'était approché et lui appliquait le garrot. « Ô chers hommes !» eut-il le temps de crier. « Les dieux ne sont qu'imagination, et la mort n'existe pas !» Alors Apollon l'écorcha et suspendit à l'olivier sa peau en forme d'outre. C'est vers 7 heures qu'Ulysse, fatigué d'attendre Nausicaa dans l'anse du rivage où la mer l'avait rejeté avec 2 heures tard sur l'horaire de l'Odyssée, se décida à aller vers la ville des Phéaciens. Pensant être rencontré par d'autres que des jeunes filles, il avait remis ses vêtements. De grandes clameurs là-bas montaient des palais, et il interrogea un passant. « Quelle est cette fête ? » demanda-t-il. « Pourquoi ces cris ?»« Ce sont les concours donnés en l'honneur d'Ulysse, » répondit le passant. « Mais il n'est plus temps d'y prendre part, étranger. Ulysse a eu tous les prix. » Ulysse hocha la tête. « Oh, Minerve, se dit-il, je comprends. Ma vie est d'un canevas si serré, chaque épisode en est à l'avance si fortement conçu, que l'on ne me convoque même pas, même plus à la vivre. Bientôt, si j'y prends garde, elle va se passer sans moi. » L'épisode d'Nausicaa, Ulysse, entre autres, portait en lui une nécessité à ce point implacable, que l'on n'a pas jugé bon de m'attendre 1 heure pour le donner à la postérité. Il sera la plus illustre de mes aventures, et il n'aura pas existé. Je te demande seulement, ô Minerve, que l'embarquement sur le bateau qui doit me ramener ce soir même à Ithaque ne se fasse pas sans Ulysse. Il était parvenu jusqu'au pied de l'estrade, sous le brouillard de la déesse, et choisit le moment le plus propice pour se réintroduire dans l'Odyssée. Soudain, à la place laissée vide par le petit Elpénor, les Phéaciens aperçurent un étranger de taille géante, et reconnaissant Ulysse, ils se précipitèrent pour armer la nef. Mais, sachant qu'elle devait être changée en pierre au retour d'Ithaque, et ses matelots en brisant, ils choisirent le vaisseau le plus large et le plus rond pour qu'il ait le moins possible forme de récif et composèrent l'équipage des Phéaciens les plus gras.